Voilà, je me réjouis de commencer cette nouvelle série d'Instituts bibliques cette année qui va être consacrée à la question du corps. On ne réfléchit pas souvent, pas toujours à la question du corps, même si on a des anthropologues parmi nous, mais nous avons un corps. Et ce corps, parfois, est source de bénédiction, mais à d'autres moments, il peut être source d'angoisse. Source de malheur, source de mal-être. On ne sait pas toujours comment nous devons nous tenir dans notre corps. Nous sommes parfois tellement centrés sur notre corps, préoccupés par notre corps, que nous ne voyons plus les autres et plus le corps des autres. Certains marchent sur le corps des autres. Notre corps peut être parfois un corps de gloire, mais à d'autres moments, on peut le ressentir plutôt comme un corps de misère. Et on peut se demander, mais ce corps, finalement, à qui appartient-il? Est-ce que mon corps m'appartient totalement? Est-ce que j'ai le droit de faire ce que je veux de mon corps, s'il m'appartient totalement? Ou appartiendrait-il aussi un peu aux autres, parce que je suis un être social? Appartient-il aussi à Dieu? Est-ce que Dieu a un mot à dire sur la manière dont je traite mon corps? Nous allons réfléchir aussi sur ce que dit notre monde à propos du corps et voir si ce qu'on entend tous les jours à la radio, à la télévision, ce qu'on voit sur les publicités à propos du corps correspond au message que nous enseigne l'Écriture. Ou s'il y a un décalage entre la culture dans laquelle nous sommes et ce qui est révélé dans les Écritures. Et à ce moment-là, peut-être devons-nous être contre-culturels, aller à l'encontre de la culture dans laquelle nous sommes. Mais jusqu'où? Donc nous aurons 8 instituts bibliques au cours de cette année. On ne va pas épuiser le sujet avec 8 instituts bibliques parce que c'est un sujet très vaste. Mais nous allons examiner différents enjeux liés au corps. Quand on réfléchit à la théologie du corps ou à ce que dit l'Écriture au sujet du corps, on parle d'anthropologie. L'anthropologie, c'est l'étude de l'être humain. Et cette anthropologie, la manière dont on considère l'être humain, a des conséquences dans notre manière de vivre. On appelle cela l'éthique. Notre anthropologie va avoir des conséquences éthiques. Elle va influencer la manière dont je suis en relation avec les autres, en relation avec moi-même, en relation avec Dieu. Aujourd'hui et la fois prochaine, nous allons prendre du temps pour réfléchir aussi théologiquement, réfléchir à ce qu'est par exemple l'image de Dieu aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire être créé en image de Dieu? On va se demander comment l'être humain est formé, ce sera pour la prochaine fois. Est-ce qu'il est un être unique? Est-ce qu'il est duel, corps et âme, le corps s'opposant à l'âme ou inversement? Est-ce qu'il est trois, corps, âme, esprit? Et qu'est-ce que ça implique finalement dans mon vécu quotidien d'avoir une ou l'autre de ces représentations? Est-ce que si nous avons un esprit, est-ce que c'est notre esprit, notre faculté de raisonner, ou est-ce que c'est une parcelle de l'esprit de Dieu en nous? Vous voyez, on verra, il y a toutes sortes de représentations du corps, mais toutes ne sont pas bibliques. Si j'ai un corps, que ce corps m'appartient, est-ce que je peux en faire ce que je veux? Puis-je le tatouer? Puis-je consommer des drogues? Puis-je me prostituer? Pourquoi certains sont mal dans leur corps et agressent-ils leur corps? Pourquoi certains en arrivent-ils à être boulimiques ou anorexiques? Quel doit être mon rapport à la nourriture? La nourriture, c'est mon corps, je l'ingurgite dans mon corps. Est-ce que la Bible a quelque chose à dire sur la manière dont je m'alimente? Est-ce que je dois entretenir mon corps? Faire du sport? Avoir des soins corporels? Si mon corps ne me convient pas, puis-je faire de la chirurgie esthétique pour le rendre plus conforme à l'image que j'aimerais qu'il ait? Est-ce que j'ai le droit de me faire beau de soigner mon apparence, ou est-ce que ce n'est que l'être intérieur qui compte? Si je n'aime pas mon corps, comment je peux retrouver de l'estime pour moi-même? Si je suis malade, que mon corps souffre, puis-je avoir recours à n'importe quel type de médecine, ou y a-t-il des médecines qui sont peu recommandables? Certaines médecines ou certains soins corporels dont je devrais m'abstenir? Comment vivre avec mon corps qui change d'apparence avec l'âge, qui vieillit ou qui est handicapé ou malade, puis face à la réalité ultime de la mort, comment je l'appréhende? Est-ce qu'un chrétien peut se faire incinérer? Est-ce que j'ai le droit de donner mes organes? Et finalement, dans l'espérance que nous avons en tant que chrétiens d'un corps nouveau, comment s'imaginer ce corps nouveau? Comment me le représenter? Alors voilà, je vous ai dressé là un peu la liste des sujets que l'on va développer au cours de ces 8 instituts bibliques. Vous imaginez bien qu'on ne va pas les traiter aujourd'hui tous. Notre réflexion sera toujours articulée autour de la parole de Dieu, qui est notre repère en tant que croyants. Nous croyons que ce qui est dit dans la parole est une parole divine, est une parole qui a été inspirée, nous la recevons comme telle, et cette parole, elle est source de vie pour nous, elle nous modélise. Et quand nous sommes en décalage avec ce que nous dit cette parole, eh bien cette parole nous invite à nous conformer à la volonté de Dieu. Pour ceux qui aimeraient approfondir le sujet, parce que je ne pourrais pas tout dire, je pourrais vous recommander beaucoup d'ouvrages, mais il y en a un en particulier sur lequel je vais pas mal m'appuyer dans ces études et que je peux vous inviter à lire, que nous avons déjà recommandé pour les études bibliques l'année dernière, un ouvrage que l'on repère facilement de par sa couleur, « Vivre en chrétien aujourd'hui, repère éthique pour tous ». Vous avez été quelques-uns à l'acheter déjà l'année dernière pour les études sur la bioéthique. Eh bien, nous allons continuer aussi dans ce livre avec les chapitres écrits par Luc Oleknovitch à propos de l'anthropologie. Alors, j'aimerais commencer avec un premier point, c'est de poser la question, quelle est la vision du monde au sujet du corps, la vision du monde occidental moderne, et quelle est la vision biblique au sujet du corps? Réfléchir au corps, c'est vraiment réfléchir à qui nous sommes. Je ne suis pas un simple esprit, un pur esprit. J'ai un corps. Mais pourquoi est-ce que j'ai un corps? À quoi sert mon corps? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas être simplement un pur esprit? Et pourquoi ce corps ne serait pas appelé à disparaître? Pourquoi Dieu a-t-il promis que nous aurions un corps de résurrection? C'est-à-dire que même au-delà de cette vie, nous aurons toujours un corps. Souvent, quand nous lisons des articles à propos du corps, des articles non-croyants, ce sont des articles très critiques à l'égard du christianisme. On dit que le christianisme a un problème avec le corps. On dit que le christianisme est une religion qui dénie le corps, qui ne lui donne pas de place. On rappelle que l'Église a encouragé les mortifications, qu'une partie de l'Église a rejeté une sexualité épanouie. On dit que le calvinisme a prescrit une manière austère de vivre la vie, très rigoriste, parce qu'on voulait valoriser l'âme, et du coup on a pu peut-être détester le corps. On perçoit généralement le christianisme comme une religion qui serait hostile au corps. Et donc notre société a cherché à contrecarrer cela, à valoriser le corps, c'est lié aussi à l'émergence de l'individu, et on est peut-être allé dans l'extrême inverse. Est-ce que la critique qui est faite à propos du christianisme est juste? Est-ce qu'on peut la recevoir? Je dirais en partie oui, en partie seulement. Parce qu'il est vrai qu'au cours de l'histoire, les théologiens ont parfois été influencés par le siècle dans lequel ils vivaient, par la culture dans laquelle ils étaient. et qu'ils n'ont pas toujours su prendre des distances par rapport aux philosophes de leur temps. Les pères de l'Église, par exemple, ont eu une vision dualiste de l'être humain. On opposait l'âme au corps. Ce qui comptait vraiment pour eux, c'était l'âme. Le corps, on pouvait le négliger. D'où venait leur erreur? C'est qu'ils pensaient que le problème du mal, le siège du péché, était dans le corps et dans les pulsions du corps. Si je pêche, c'est parce que mon corps a des pulsions et donc ce corps est mauvais. Il faut que je valorise l'âme. Jésus, par contre, a dit l'inverse, si vous vous souvenez. Qu'a-t-il dit? Il a dit que nos mauvaises pensées et que nos actes mauvais viennent du cœur. Jésus n'a pas décrié le corps. Les théologiens, les pères de l'Église qui ont pensé ainsi ont été influencés par un philosophe, Platon, qui pensait que le corps est une forme de prison de laquelle il faut se libérer parce que ce n'est que des contraintes et il faut aller en direction de l'âme. Mais si des théologiens ont été influencés par les philosophies de leur temps, est-ce que l'Écriture est contre le corps? Et là, nous devons dire fermement non. L'Écriture valorise le corps. Le corps est quelque chose de bon. La Bible n'enseignait pas une vision dualiste où l'âme serait à privilégier, l'âme serait pure et le corps serait pécheur. Le corps a vraiment une importance dans la spiritualité chrétienne. Il n'est jamais un frein qui empêcherait notre âme de grandir et d'évoluer et de s'élever. Le corps n'est pas un ennemi dont on doit se méfier. On peut même dire qu'à l'origine, les chrétiens vivaient dans un monde qui méprisait le corps. La culture gréco-romaine valorisait davantage la raison et méprisait la matérialité du corps. Et les premiers chrétiens ont réagi à contre-courant de leur culture. On le voit déjà dans la lettre aux Corinthiens. Les Corinthiens sont repris par Paul parce qu'ils voulaient être tellement spirituels qu'ils en devenaient à être de purs esprits, à penser que la seule chose qui comptait, c'était le contact de leur esprit avec l'esprit de Dieu et que le corps n'avait plus d'importance et qu'ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Et Paul leur dit « Non, mes frères, vous avez un corps qui appartient au Seigneur et vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez. » Les premiers chrétiens ont compris que l'homme parfait, celui qui avait aussi la juste représentation du corps, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ a été l'image parfaite de Dieu sur cette terre. Il a reflété Dieu au travers de son corps. Et comment Jésus a-t-il traité son corps? Qu'a-t-il fait de son corps? Il a utilisé son corps pour être en bénédiction pour d'autres. Il s'est occupé des petits, des démunis. Il a nourri des foules affamées. Il a guéri des malades. Si Jésus avait été un pur esprit, il n'aurait pas pu faire ça. Il avait besoin de son corps. Il était véritablement humain, le plus humain des humains. Il n'a pas dévoyé son humanité. Et en étant le plus humain des humains, il a reflété qui était Dieu. Il était l'image parfaite de Dieu. Et les chrétiens, se basant sur l'œuvre de Jésus-Christ, ont fait de même. Ils ont utilisé leur corps pour faire des œuvres bonnes. Vous savez que les hôpitaux qu'on a ont été, pour la plupart, et même l'idée même de l'hôpital vient des chrétiens. L'idée de l'école vient des chrétiens. Les chrétiens ont pris soin des mendiants, ils ont pris soin des pauvres. Pendant 2000 ans, les chrétiens ont utilisé leur corps pour faire du bien à d'autres. Ils ont soulagé la misère. Et en cela, on peut même dire que le christianisme se démarque des autres religions, et notamment de religions orientales qui dévalorisent le corps, qui pensent que le corps n'est qu'un réceptacle, mais qu'il n'est pas la personne elle-même. « Mais à cause de la représentation que la société a du christianisme, notre société a voulu se débarrasser de cet héritage chrétien qu'elle pensait corrompu, et elle a commencé à valoriser le corps à l'extrême. Elle a cherché à compenser. Autrefois, les corps étaient réprimés, cachés, on ne les montrait pas. Aujourd'hui, ils sont montrés et même surexposés, voire même adulés. Le corps humain est placé aujourd'hui comme le centre de la quête du bonheur. Pour être bien, pour trouver le bonheur, il faut être bien avec son corps. Et paradoxalement, la survalorisation du corps aujourd'hui amène une certaine forme de déshumanisation. On pensait libérer le corps et lui permettre d'être qui il est réellement. Et les conséquences sont plutôt que ces corps se déshumanisent. On retombe dans de nouveaux esclavages. On a aujourd'hui une sorte de mythe sociétal qui est celui d'un corps parfait. Pour se sentir bien, il faut vivre bien avec son corps, il faut avoir un corps qui est beau, qui est en bonne santé, qui est toujours jeune et qui est parfait. Et notre société, qui est de type commercial, répond à ces besoins avec les marchands de cosmétiques, avec les coachs qui nous remettent en forme, avec les gourous des thérapies corporelles. Et tous nous promettent le salut de notre corps, un salut pour ici et maintenant, ce salut qui va nous donner enfin le bonheur. Le problème, c'est que tout est réduit à nos besoins physiques. Et est-ce qu'on est plus heureux pour autant ? Est-ce que notre société est plus heureuse ? Notre être est réduit à son apparence. Tout est fait pour soigner l'enveloppe, mais on a oublié ce qu'il y a à l'intérieur. On a oublié l'âme. Nous sommes dans une société qui est superficielle, qui est narcissique, où on ne voit pas plus loin que sa peau. On est dans une forme de surinvestissement du corps qui laisse l'individu vraiment vide de sens. Aujourd'hui, on revendique un droit au bien-être, être bien avec son corps. Et donc j'ai le droit d'être en bonne santé. Et j'ai même le devoir d'être en bonne santé, le devoir d'être beau, le devoir d'être parfait. Ça devient une tyrannie. Quand je ne réponds pas aux standards des canons de beauté qui nous sont montrés sur les magazines, eh bien, je me sens désormais coupable. On a survalorisé la beauté physique en montrant partout des corps de femmes qui sont idéalisés, jeunes, élancées, attirantes. Et puis, toujours retouchées par Photoshop sur les magazines. On a imposé un standard. Et beaucoup cherchent à trouver ce standard-là, à se conformer à ce standard. Ça devient une tyrannie. Et si je ne corresponds pas au standard, je me sens mal, pas bien dans ma peau. Or, on ne peut pas réduire l'être humain à la matérialité de son corps. J'observe, même dans des entretiens, la destruction, les ravages que provoque cette forme de tyrannie. Beaucoup de personnes sont mal. Aujourd'hui, certains commencent à voir cela. Elles rejettent ce matérialisme et donc elles se disent « il doit y avoir autre chose, je vais aller chercher un sens à ma vie. Je vais aller chercher plus profond au fond de moi. » Et ça amène des personnes à se tourner vers toutes sortes de spiritualités, souvent des spiritualités qu'on s'est fabriquées maison, où ça amène des gens à s'engager dans des causes qui vont leur donner, qui vont donner du sens à leur vie, comme l'écologie, comme la cause des animaux. J'observe un autre paradoxe. Alors qu'on survalorise le corps, on est aujourd'hui en difficulté à vivre vraiment ce corps, et certains fuient dans des mondes virtuels. Ils empruntent des corps qui ne sont pas les leurs au travers d'avatars. Les avatars, ce sont des personnages que l'on se fabrique au travers de, du numérique pour dire qui on est. Et on rencontre avec son personnage fabriqué, qui peut être complètement différent de qui nous sommes, d'autres personnages virtuels. On fuit la réalité de notre corps et on préfère s'idéaliser au travers d'avatars. Parce qu'on n'arrive pas à répondre à cette exigence, à cette tyrannie qui nous est imposée par la société pour le corps parfait, eh bien certains en viennent à détester leur corps, parce qu'ils se disent « je ne pourrai jamais être le corps idéal ». L'image que leur renvoie la publicité leur devient insupportable, et certains commencent à se scarifier, à se faire du mal, pour dire « je déteste mon corps ». D'autres en arrivent à des formes d'anorexie pour chercher à fuir leur corps et à ne devenir qu'un pur esprit. Quelqu'un qui devient anorexique lance en fait un signal d'alarme très fort, un signal de détresse. Il dit « je vis mal dans mon corps, je ne sais pas comment habiter mon corps ». C'est souvent un geste de désespoir même qui aboutit à la mort en définitive. Mais que signifie ce signal que lance l'anorexique? C'est le signal de la difficulté à recevoir le corps comme un cadeau de Dieu. Et finalement, en refusant le cadeau du corps, on refuse aussi le donateur, Dieu qui est le créateur de notre corps. Donc finalement, cette manière d'avoir surinvesti le corps amène la société à un paradoxe, soit à idolâtrer le corps, soit à fuir le corps pour de nouveau redevenir de purs esprits. Vous voyez, il n'y a pas un rapport sain au corps. Et finalement, ce n'est pas tellement étonnant. Parce que quand on cherche à savoir comment habiter notre corps sans Dieu, eh bien, on entre très rapidement dans le péché. Et qu'est-ce que le péché? Le péché consiste à dévoyer un bien que Dieu nous a donné pour en faire un autre usage. Or, c'est exactement cela que fait la société en idolâtrant le corps ou en le rejetant. En glorifiant le corps, on en a fait une idole. Et même une idole qui est oppressante. Nous lui devons tout à cette idole. Le corps exige de nous tous les sacrifices. Nous y mettons notre argent, du temps. Nous sommes prêts même à lui vendre notre âme. Et cette aspiration à un corps idéal, beau, en bonne santé, devient une tyrannie. Et c'est le propre d'une idole que de devenir tyrannique, de nous enfermer, de nous rendre esclaves plutôt que de nous libérer. C'est Dieu qui nous libère. Ainsi, le corps, au lieu d'être un objet de réjouissance, un objet de louange à Dieu, bien devient l'objet de tous les maux, de toutes les insatisfactions. On supporte beaucoup moins bien aujourd'hui, par exemple, les maladies qu'on ne les supportait autrefois. On devient intolérant à tout ce qui affecte le corps. Le handicap est difficile à vivre, même si aujourd'hui, et ça c'est un effet heureux malgré tout de la société, on cherche à permettre aux personnes handicapées de vivre normalement dans la société. Mais tout ce qui est, d'une manière ou d'une autre, limitant, devient une forme d'oppression insurmontable pour les êtres humains. Donc on cherche à s'affranchir de ce corps, des limites de ce corps. Et comment cherche-t-on à s'affranchir des limites de ce corps? Ce corps qui doit nous être docile, ce corps qui doit être une matière malléable pour qu'il devienne ce qu'on a envie qu'il devienne. Eh bien certains cherchent à rendre ce corps malléable en faisant des sports extrêmes et en prenant de plus en plus de risques, quitte à côtoyer à chaque fois la mort. D'autres cherchent à rendre ce corps malléable en refusant leur sexe de naissance et en cherchant à changer de sexe. D'autres encore cherchent à rendre leur corps malléable en vivant une sorte de réalité augmentée, en se faisant greffer des puces, par exemple, pour essayer d'être un homme-machine et d'avoir plus de capacités qu'avec le corps naturel qui a été donné. Que nous dit l'Écriture de tout cela ? Il y a un premier fondement qu'il nous faut poser. Et à partir de là, vous verrez qu'on voit très rapidement comment les choses s'articulent. Ce premier fondement, c'est la croyance en un Dieu créateur. Genèse 2, verset 7, nous dit ceci. Le Seigneur façonna l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Qu'il y a deux choses qui nous sont dites, en tout cas dans ce texte. La première, c'est que l'homme a été façonné de la poussière. C'est-à-dire qu'il a reçu un corps façonné de la poussière. Le corps a été fait par Dieu, façonné par Dieu. Et la deuxième chose qui nous est dite, c'est qu'il a reçu un souffle vital. Le souffle de Dieu, ce souffle qui a donné notre mot « âme » en français. Donc l'homme est fait d'un corps et il est fait d'une âme. Ce corps est un cadeau de Dieu. Il était façonné par Dieu. C'est un corps qui est bon, malgré les limitations auxquelles il nous soumet. Ce que Dieu fait est bon. Chaque fois que Dieu a créé, nous lisons dans le texte de Genèse, que ce qu'il a fait était bon. Quand nous cherchons à avoir un autre corps que le nôtre, c'est que nous cherchons quelque part à fuir le cadeau que Dieu nous a fait. En tout cas, nous ne l'acceptons pas pleinement. L'Écriture nous enjoint à accepter notre corps, à l'accepter comme un cadeau que Dieu nous a fait. Accepter veut dire aussi avoir de la reconnaissance. Accepter veut dire prendre soin de ce corps, avoir un bon usage de ce corps. Un peu comme si je reçois un instrument de musique, un Stradivarius par exemple, pour un violon, eh bien c'est un instrument que je vais contempler, c'est un Stradivarius, c'est pas n'importe quel instrument. Mais tant que je ne l'ai pas en main, tant que je ne me l'approprie pas, tant que je n'apprends pas à maîtriser mon instrument, cet instrument m'est un peu étranger. Eh bien le corps, de la même manière, je dois apprendre à le dominer, je dois apprendre à l'habiter. Il faut que j'apprenne à le maîtriser pour en tirer le meilleur. Et ce corps devient alors un instrument qui me pousse à m'émerveiller, à rendre grâce à Dieu. C'est ce que dit le psaume 139 au verset 14. L'auteur dit « Je te célèbre, car je t'ai fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes, je le sais bien. » Alors, je ne sais pas qui d'entre nous, chaque matin, se lève et dit « Je te célèbre, Seigneur, car j'ai été fait de façon merveilleuse. » Et pourtant, c'est ça, reconnaître le cadeau. Ce n'est pas être devant son miroir et se dire « Oh, combien je suis beau et magnifique !» Ce n'est pas ça. On n'est pas dans une contemplation narcissique. On est là à reconnaître que ce que Dieu a fait est quelque chose de beau et de bon. La louange ne nous revient pas. Ce n'est pas moi qui suis responsable de ma beauté. Cette louange revient à Dieu. C'est lui qui m'a fait. C'est un apprentissage d'accepter ce cadeau. C'est un processus aussi. Un processus qui va durer toute la vie. Je ne sais pas si vous avez vu déjà des enfants qui se préoccupent de leur corps. Moi, je n'en vois pas. Les enfants habitent leur corps de manière assez facile. C'est leur corps, ils ne se posent pas de questions. Mais quand ils deviennent adolescents, que se passe-t-il ? Il y a un tas de transformations qui se passent en 2-3 ans qui sont phénoménales. Et l'adolescent, en se regardant dans le miroir, se dit « Est-ce que c'est vraiment moi ?» Il ne se reconnaît plus, il commence à avoir l'apparence d'un adulte et il est encore enfant à l'intérieur de lui-même. On sait que le cerveau se forme jusqu'à 26 ans pour les dernières parties. Donc il y a un décalage entre l'apparence et ce qu'on est à l'intérieur. On observe des changements. Plus tard, quand une maman accouche, son ventre ne sera peut-être plus pareil. Celui qui tombe malade va peut-être aussi avoir un corps qui se transforme. Les médicaments peut-être vont même lui faire prendre du poids. Quand les vieux jours arrivent, les rides s'accélèrent, les cheveux deviennent blancs, je commence à avoir de la difficulté à me mouvoir dans mon corps. Et c'est aussi qu'un jour, je me regarde dans le miroir et je me dise, est-ce que c'est vraiment moi ? Les hommes à la quarantaine, ou entre 40 et 50 ans, passent souvent par cette crise. Ils peuvent se comparer à d'autres hommes qui ont le même âge sur des magazines et se dire, mais il fait vieux cet homme-là à 40 ans, alors qu'ils ont le même âge. Comment est-ce que je m'approprie mon corps ? Comment est-ce que j'accepte des nouvelles rondeurs, des nouvelles formes, des signes de vieillesse ? Alors bien sûr, parfois nous sommes responsables nous-mêmes du changement d'apparence. Si je grignote entre les repas, si je m'adonne à ce qu'on appelle la malbouffe, à savoir qu'on abuse de sucre, de matière grasse, si je ne fais aucun exercice physique, eh bien oui, je prendrai peut-être quelques rondeurs. Mais d'autres fois, je n'y suis absolument pour rien. C'est la vie, simplement. Je n'y suis peut-être pour rien, ou j'y suis peut-être pour quelque chose. La question n'est pas tellement là. La question est comment j'accueille finalement mon apparence, comment j'accueille mon corps. Je suis toujours responsable de la manière dont je vis avec mon corps. Est-ce que ces transformations du corps, je les vis avec Dieu ? Ou est-ce que j'accuse Dieu des transformations de mon corps ? Est-ce que je suis encore capable, avec la vieillesse, avec les facultés qui diminuent, de me dire « mon corps est un cadeau » ? Pourtant, Dieu nous appelle même dans la vieillesse à considérer notre corps encore comme le corps que Dieu nous a donné. Job, je pense, est un exemple pour nous. Il nous montre une bonne attitude. Il nous dit « l'Éternel a donné ». L'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Bien oui, l'Éternel va reprendre certaines de nos facultés à un moment donné, que le nom de l'Éternel soit béni. Il peut y avoir un temps pour protester contre les bouleversements de notre corps, surtout si ceux-ci sont rapides, s'ils sont dus peut-être à un accident, à une maladie. Il peut peut-être y avoir un temps de révolte. Mais il doit suivre une période d'acceptation. Et puis un temps d'espérance, où mon corps présent n'est pas la réalité ultime, mais j'ai l'espérance d'un corps nouveau. Et que cette espérance d'un corps nouveau, qui sera dans la prolongation de mon corps présent, ce n'est pas deux réalités complètement distinctes, et bien que ce corps nouveau, qui fait suite au corps présent, sera parfait. Et ça peut m'amener à me réjouir malgré la vieillesse et la diminution des facultés. C'est Paul qui dit en Romains 8, verset 23, « Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption filiale, la rédemption de notre corps. » Eh bien, Paul déjà attendait la rédemption de son corps. On vieillissait aussi plus vite à cette époque. Le corps souffrait davantage. Et à 50 ans, on pouvait se sentir vieux. Je pense qu'on a une clé ici pour vivre mieux. Si je reconnais que mon corps est un cadeau du Seigneur, que je dois apprendre à m'accepter dans mon corps tel que je suis, je serai beaucoup plus libre dans mon rapport aux autres, dans mon rapport à moi-même, que si je vis le corps comme une forme de prison qui m'enferme, qui me restreint, qui ne permet pas d'être ce que j'aimerais être. Je suis frappé de voir des personnes qui sont très limitées dans leur corps. Peut-être même leurs facultés sont-elles réduites à un moment donné, et qui pourtant ont cette capacité de s'accepter qui fait qu'elles sont source de bénédiction pour d'autres, qu'elles sont des modèles de joie, des modèles d'encouragement. Et cela nous montre qu'il ne s'agit pas d'avoir un corps en parfaite santé, beau, pour pouvoir être une bénédiction pour les autres. Avec ce que je suis, avec le corps que j'ai, je peux être une bénédiction pour d'autres. Je n'ai pas besoin de passer par la chirurgie esthétique pour devenir la personne idéale. Après avoir posé ce principe que le Seigneur est le créateur de notre corps, je pose une autre question. Qui est propriétaire de mon corps? À qui est mon corps? Est-ce qu'il m'appartient? Ou est-ce qu'il appartient à mon conjoint? Paul le dit à un moment donné, et j'y reviens tout à l'heure. Ou est-ce qu'il appartient à Dieu? L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 6, verset 13, il dit « Le corps est pour le Seigneur. » Le corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. C'est-à-dire qu'il approuve le corps. En disant que le corps est pour le Seigneur, ça ne veut pas dire que mon corps ne m'appartient pas. Quand on me touche, c'est bien moi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mon corps est mien. C'est même mon bien le plus intime, le plus personnel. On n'a pas le droit de venir violer mon corps. Le corps que j'ai est un corps qui a une grande valeur, une grande dignité. Même s'il ne correspond pas aux standards des magazines de beauté. Alors, que veut dire « le corps est pour le Seigneur » ? Mais ça veut dire que mon corps est fait pour le Seigneur. Il n'est pas fait pour mon propre besoin. Il n'est pas fait pour que je me renferme sur moi-même dans un désir narcissique de ne regarder que mon nombril. Dieu m'a donné un corps pour que ce corps soit utile pour le Seigneur et qu'il glorifie le Seigneur. C'est dans ce sens-là que mon corps est pour le Seigneur. Ça veut aussi dire que si mon corps est pour le Seigneur, je dois en prendre soin. Physiquement, psychiquement. Mon corps n'est pas destiné à n'importe qui. Mon corps n'est pas fait pour n'importe quoi. Dieu ne veut pas que je fasse du mal à mon corps en disant « c'est mon corps, j'ai le droit d'en faire ce que je veux, d'abuser de toutes les substances comme je le veux ». Non, mon corps est pour le Seigneur. Il est mien, mais si je le traite mal, il ne va plus honorer le Seigneur. Mon corps ne doit pas être aliéné. Aliéné vient d'un mot qui veut dire être vendu. Mon corps ne doit pas être vendu. Il ne doit pas devenir la propriété de quelqu'un d'autre. Mon corps ne peut pas être réduit en esclavage. Le corps d'un enfant ne peut pas être utilisé pour être simplement de la main-d'œuvre gratuite ou de la main-d'œuvre à bon marché. Et même le corps de mes enfants, en tant que parent, ne m'appartient pas. C'est le corps de mes enfants. Je n'en suis pas le propriétaire. Alors il y a les féministes qui viennent avec un slogan qui dit « Mon corps m'appartient ». Alors dans le sens de dire que ce corps m'appartient, qu'on n'a pas le droit de l'agresser, elles ont raison. Mais quand elles veulent dire que mon corps m'appartient, donc j'ai un droit à avorter comme je le souhaite et à me délester de mon enfant que je porte, là, ça devient quelque chose qui est inacceptable. Parce que la femme, d'abord, n'a pas été seule pour mettre au monde cet enfant, il y a aussi un homme. Et d'autre part, la vie de l'enfant à naître n'appartient pas à cette femme, elle n'en est pas propriétaire. C'est l'homme et la femme qui sont tous deux responsables de l'enfant à naître devant Dieu. Ils ne sont pas les maîtres avec un droit de vie et de mort sur cet enfant. Un texte pose peut-être problème, C'est celui de l'apôtre Paul qui dit en 1 Corinthiens 7, verset 4, « Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. » De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais c'est sa femme. Est-ce que ce n'est pas en contradiction avec ce que je viens de dire, où le corps m'appartient ? C'est toujours important, quand on cite un verset, de le prendre en fonction, de le considérer en fonction du contexte. Or, quel est le contexte ? Nous sommes ici dans une situation où, au sein d'un couple, les conjoints s'abstiennent de relations sexuelles, vivent l'abstinence avec une sorte de désir d'ascétisme, comme si cette forme d'ascétisme les rendait plus purs, plus saints devant Dieu. Peut-être n'était-ce même pas un désir partagé, c'était l'un des conjoints qui, au motif de prier, de se rendre disponible pour Dieu, se refusait à l'autre. Et Paul leur dit, dans ce même passage, que l'homme et la femme ne doivent pas se priver l'un de l'autre pour trop longtemps. Le souci de Paul, c'est le risque d'infidélité, le risque qu'ils s'éloignent l'un de l'autre en se refusant l'un à l'autre. Peut-être aussi qu'il y avait, chez certains croyants, cette idée de dire « je fais ce que je veux avec mon corps, puisqu'il m'appartient, et même si je suis marié, je fais ce que je veux, donc si je ne veux pas me donner à mon conjoint, c'est mon droit. » Et Paul réagit en mettant l'accent sur les liens entre l'homme et la femme, en rappelant qu'il est important de consolider ces liens conjugaux, que ces liens passent par la relation l'un avec l'autre, et que c'est même là une forme de protection contre toute forme d'infidélité ou toute forme de tentation qui pourrait arriver. Donc Paul lutte quelque part dans ce verset contre ce désir d'autonomie, contre cet individualisme qui oublie l'autre et qui oublie les besoins de l'autre. Mais quand Paul dit que ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari, il n'est pas en train de dire que le mari est le propriétaire du corps de sa femme. Ce n'est pas ça qu'il dit. Comme si l'homme pouvait disposer du corps de sa femme à sa guise, comme si sa femme n'était qu'un objet à sa disposition quand il le souhaite. Et inversement, la femme n'est pas propriétaire du corps de son mari. Paul veut simplement que l'un et l'autre se portent une attention mutuelle. Mon corps est là pour être en bénédiction à l'autre, et particulièrement dans le couple, mon corps est là pour être une bénédiction pour mon conjoint. Et donc, Paul invite à ne pas se priver trop longtemps l'un de l'autre, sauf s'il peut y avoir parfois des raisons médicales qui empêchent ces relations. Mais ce n'est pas de cela qu'il est question non plus dans le texte. J'en viens au dernier point. Nous avons été créés en image de Dieu. Et cela aussi va modéliser, modeler notre pensée et notre manière de comprendre à quoi sert notre corps. Nous sommes créés en image de Dieu, c'est écrit en Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Il est dit, Dieu dit, faisons, et c'est une délibération entre le Père et l'Esprit au sein même de la Trinité, Dieu dit, faisons les humains à notre image selon notre ressemblance. Et le verset suivant, Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. On a là quelque chose qui est absolument unique dans l'Écriture. Ce qui est dit à propos de l'homme n'est dit qu'à propos de l'homme. Aucune autre créature ne jouit de ce privilège. Aucun animal n'a été créé à l'image de Dieu ou à la ressemblance de Dieu. C'est même cette notion d'image de Dieu qui distingue l'homme de l'animal. Ça ne signifie pas que l'homme serait divin et qu'il ne serait plus soumis aux contingences de cette terre, de cet univers, mais cela signifie que tout en étant terrestre, tout en étant un terrien, et Adam veut dire le terrien, tout en étant un terrien, L'homme porte une caractéristique particulière qui le distingue de tous les êtres de l'univers. Il porte l'image de Dieu en lui. Et il est appelé à refléter cette image dans le monde dans lequel il vit. Porter l'image de Dieu revêt une dignité. L'homme a une dignité intrinsèque. Cette dignité n'est pas conférée à l'homme à partir d'un certain stade de son existence. Elle ne lui est pas conférée au moment de la naissance, par exemple, comme si avant la naissance, ce n'était qu'un potentiel qui était là, mais pas encore un vrai être humain. La dignité d'être en image de Dieu est conférée au moment de la conception, dès l'instant où la vie surgit. Et cette dignité ne peut jamais être enlevée par personne. La valeur de l'être humain n'est jamais liée à sa capacité d'agir ou à sa capacité de raisonner. Quelqu'un qui devient complètement incapable de s'exprimer, quelqu'un qui perd toute faculté d'agir, n'en reste pas moins un humain. Il est digne, il a une dignité intrinsèque qui vient du fait d'être homme, fait à la ressemblance en image de Dieu. Donc on ne peut pas dire que si quelqu'un n'a plus la faculté d'être utile dans ce monde, on peut s'en débarrasser parce qu'il n'aurait plus de dignité. Certains cherchent à aller dans ce sens-là aujourd'hui, avec l'idée d'une société utilitariste. On ne garde que ce qui est utile. Tout ce qui n'a plus d'utilité sociétale, eh bien on l'élimine. Et l'être humain devient une forme d'objet qu'on peut jeter après en avoir fait usage. Et je le dis encore une fois avec force, notre dignité dépend du fait d'être en image de Dieu, pas de notre capacité d'être utile dans la société ou d'être utile aux autres. Et c'est pour cela que l'Écriture nous encourage tout particulièrement à être respectueux des plus petits, des plus démunis, parce qu'eux aussi sont en image de Dieu, eux aussi ont une dignité. Que veut dire être en image de Dieu ou être à l'image de Dieu? Il y a un débat sur la manière de traduire cette expression. Certains ont compris que l'image, c'était une forme de copie conforme d'un original. Ou comme en couture, vous avez un patron. Et vous reproduisez ensuite un modèle à partir du patron. On n'est pas des copies conformes de Dieu. Même avant le péché, nous n'étions pas des copies conformes de Dieu. Dieu est divin et nous sommes des terriens. Nous ne sommes pas des petits dieux. Nous restons des terriens, dignes, appelés à refléter Dieu, mais nous ne sommes pas des petits dieux. Donc je crois qu'on doit résister à cette idée de dire que nous sommes à l'image de Dieu, au sens où nous serions l'image de Dieu comme une sorte de calque, si vous voulez, de Dieu. C'est notre frère Henri Blocher qui a écrit ce livre il y a déjà bien longtemps, « Révélation des origines », qui réfléchit aussi à la notion d'image de Dieu. Je le suis aussi dans ce qu'il dit. Il comprend, lui et d'autres avec lui, que la notion d'image doit plutôt être comprise dans le sens d'une ressemblance. Une image, c'est quelque chose qui ressemble à un original, mais ce n'est jamais l'original. Mais quand je vois l'image, j'ai une idée de comment doit être l'original, même si je ne le vois pas. Si un peintre fait une très jolie peinture, un tableau avec un paysage, j'aurai une idée de ce qu'est ce paysage, même si je ne le vois pas de mes propres yeux. Nous, de la même manière, en voyant l'image de Dieu que vous portez tous, je vois Dieu. Mais pas au sens où vous seriez une copie conforme de Dieu. Vous comprenez? Vous reflétez Dieu dans ce que vous êtes, nous reflétons Dieu dans ce que nous sommes, mais pas au sens d'une copie conforme, au sens de quelque chose qui me renvoie à l'original. C'est dans ce sens-là que nous sommes en image de Dieu plutôt que à l'image de Dieu. Et c'est parce que nous sommes en image, encore une fois, que nous avons une dignité et que nous sommes différents des animaux. Celui qui était l'image parfaite de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a été cette image parfaite. Quand nous voyons Jésus, nous voyons au travers de lui le Père. Nous voyons Dieu. Nous le voyons au travers des qualités morales de Jésus. Et cela veut dire que nous sommes aussi à refléter des qualités morales de Dieu. Nous voyons aussi Dieu en Jésus au travers de la manière dont Jésus a agi avec son corps. Jésus a utilisé son corps pour être en bénédiction, pour amener l'amour de Dieu autour de lui. Et bien de la même manière, si nous voulons être en image de Dieu, nous sommes appelés à être en bénédiction à d'autres. Et cela, ça veut dire que nous sommes appelés à être des représentants de Dieu sur cette terre. On pourrait prendre l'image, et c'est celle que j'évoque un peu avec Jésus, mais qui nous correspond aussi, pour comprendre ce que veut dire être en image de Dieu, nous pourrions prendre cette analogie d'un fils, du rapport d'un fils avec son père. Le fils est en quelque sorte l'image du Père. Il y a une part de ressemblance entre le Fils et le Père. Le Fils a aussi des facultés qui lui viennent de son Père. Et puis le Fils a aussi cette mission de représenter le Père. Il représente la famille. Eh bien, nous, de la même manière, nous avons cette mission à la fois de ressembler dans les caractères moraux de Dieu à Dieu, et nous avons cette mission de représenter Dieu dans ce monde. Nous sommes pour Dieu un vis-à-vis. Dieu est rempli l'univers de sa présence, il est esprit, et nous sommes, nous, sur cette terre, des vis-à-vis. Dieu veut avoir devant lui une image qui soit un vis-à-vis et qui lui réponde. Et pour répondre à Dieu, nous devons nous unir à Jésus-Christ, son Fils. Cela passe par la rédemption, cela passe par la régénération. Et Dieu aimerait bien être en communion étroite avec l'ensemble des humains. Mais nous ne sommes pas seulement en image de Dieu si nous sommes ses enfants. Tous les êtres humains sont en image de Dieu. Malheureusement, ce qui s'est passé avec ceux qui se sont éloignés de Dieu, c'est que cette image, et même avec nous, puisque nous avons aussi été éloignés de Dieu, c'est que cette image a été déformée, elle a été corrompue. Les hommes sont toujours en image de Dieu, tous les hommes, mais parfois ce n'est plus qu'une caricature de ce qu'aurait dû être cette image. Tellement le péché est venu salir, est venu corrompre ce qu'était cette image à l'origine. Et donc, il faut une vraie œuvre de régénération pour retrouver cette image. C'est pour ça que Dieu nous demande, à nous qui voulons le suivre, de le représenter et de nous tourner vers Jésus pour être comme Jésus, qui était l'homme parfait, de chercher à être aussi des hommes parfaits devant Dieu. Je vais terminer en essayant de résumer en quelques points différentes affirmations que j'ai eues au long de cette présentation. Et je vais terminer avec 7 points, rapidement. Premier point, si nous voulons avoir une saine anthropologie biblique, c'est que nous devons accepter notre corps. Dans la Bible, le corps n'est pas là pour être glorifié pour lui-même, et le corps n'est pas non plus à mépriser. Le corps n'est pas une idole et je ne dois pas me soumettre à lui comme un tyran qui me dirait comment je dois être pour être dans un corps qui est bien. Je dois accepter le corps que j'ai reçu. Deuxièmement, ce corps est un cadeau, est un don de Dieu. Beaucoup de personnes ont un problème dans leur relation avec leur corps. Mais je pense qu'il y a tout un apprentissage, et ça passe aussi par le fait d'être en contact avec Dieu, de prier pour cela, elles doivent apprendre à glorifier Dieu plutôt qu'à glorifier leur propre corps. Il vaut mieux se détourner un peu de son nombril, élever les regards vers Dieu et commencer à louer Dieu pour le corps qu'il nous a donné. Troisième point, c'est que nous sommes appelés à avoir posé des limites aussi à ce qu'on peut faire avec notre corps. Si nous refusons l'obsession d'un corps parfait, eh bien, il devra peut-être refuser tel acte de chirurgie esthétique. Si je ne suis pas bien avec mon corps, si j'ai une faible estime de moi, l'idéal n'est pas d'aller enlever les bourrelets chez le chirurgien, mais plutôt de guérir intérieurement pour m'accepter. Parce que le problème, au fond, n'est pas le symptôme lui-même qui serait les bourrelets, mais le problème est plutôt comment je me perçois moi-même, l'estime que j'ai de moi. Et c'est là que Dieu veut venir guérir mon estime de moi-même. Prenez un exemple. Voyez Michael Jackson, qui est décédé maintenant, mais il a passé par tellement d'opérations de chirurgie esthétique qu'on ne le reconnaissait plus. Il n'acceptait pas qui il était. Il n'acceptait pas sa couleur de peau. Eh bien, il est devenu un autre homme. Était-il plus heureux pour autant? Il a cherché à être l'homme qu'il désirait être, et pourtant, il est mort dans la désespérance. Donc ce n'est pas en modifiant mon corps que je vais trouver le bonheur, c'est en acceptant le corps que Dieu m'a donné.
Je fais partie de cette création et j'ai envie de prendre soin de mon corps. Il y a du mal à gérer ma façon d'être, ma façon de paraître, ma façon d'agir. Pourquoi? C'est le respect que je dois à mon créateur. C'est le respect aussi que je demande aux autres, à ceux qui sont autour de moi. Et prendre soin de son corps ne légitime pas le fait d'idolâtrer son corps. Je ne peux pas porter tous les soins sans limite. L'idéal, quand je suis venu à trouver, il y a un équilibre à trouver dans le soin que j'apporte à mon corps. Si les soins sont destinés à ce que je ne vieillisse jamais, à ce que je reste éternellement jeune, ça me pose un souci d'acceptation de qui je suis. Or, ce corps, même le devenant vieux, ça reste le cadeau du Seigneur. Je dois accepter la réalité d'un corps qui, un jour, va disparaître. Mais ce qui est quoi, c'est que ce corps qui va disparaître ne va pas disparaître pour toujours, parce que Dieu nous promet un corps de gloire, un corps libéré de tout mal, un corps glorifié. Et Dieu viendra un jour pour renouveler les cieux, la terre, et pour nous renouveler, pour nous revêtir en corps. Si nous avons appartenu à Christ, du moins.
Ce corps qui va nous permettre d'honorer Dieu est déjà en partie le corps que j'ai maintenant et qui doit me permettre d'honorer Dieu. Donc en résumé, avec ce corps que Dieu m'a donné, je suis appelé à honorer Dieu. Je suis appelé à mettre à son service le corps qu'il m'a donné. Le mettre à son service, c'est-à-dire mettre mes dons, mettre mes capacités au service de sa volonté. Je suis aussi un corps sociable. Respecter mon corps, c'est aussi vivre dans la sociabilité, être en lien avec les autres. Et puis, ultimement, ce que je fais avec mon corps doit être quelque chose qui fait plaisir à Dieu. Dieu doit être fier de moi, sa créature. Mon corps doit refléter la beauté du Seigneur et la bonté du Seigneur. Et cela, ça veut dire mettre mon corps au service de la justice, au service de l'amour de Dieu, au profit des autres êtres humains. Amen.